On a le plaisir d'avoir en notre compagnie le Dr Mélissa Généreux. Bonjour, Dr Généreux.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur titulaire au département des sciences de la santé communautaire, faculté de médecine et sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Et vous venez avec votre équipe de mener une enquête qui est un constat troublant, mais d'une certaine façon, on n'en est pas tout à fait surpris. Un enfant sur 10 a une mauvaise qualité de vie au Québec et il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ce sens-là. Et les enfants avec un handicap ou des difficultés d'apprentissage, eh bien là, la situation est encore pire.
Oui, puis vous dites on n'en est pas surpris, mais en même temps, j'ai même des gens qui m'ont dit « Est-ce que c'est vraiment surprenant de voir que les enfants qui vivent avec des difficultés d'apprentissage, difficultés d'adaptation ou handicap, ce qu'on appelle communément les enfants classés EHDA, est-ce qu'on est vraiment surpris de voir que ces enfants-là sont 2 à 3 fois plus nombreux à afficher un faible score de qualité de vie? » Ben moi, à cette question-là, je réponds oui, je suis surprise. Ou est-ce que, en fait, je suis pas surprise, mais est-ce que je l'accepte comme,
non, ça, c'est
comme
ça, ouais.
Ben non,
c'est,
parce
voilà.
Que la qualité de vie, c'est beaucoup plus large que la réussite à l'école.
Exact.
C'est la qualité de vie dans nos relations sociales, dans ce qu'on fait dans notre temps libre, dans les relations avec nos parents, notre niveau d'énergie, d'attention, notre sentiment de tristesse. Donc, c'est un petit peu toutes ces composantes-là qui semblent affectées par une classification scolaire qui, ultimement, vise en théorie, en tout cas, du moins, à aider le jeune à mieux passer au travers de son parcours scolaire.
Ben, je suis d'accord avec vous. En fait, quand je disais que ça ne me surprenait pas, c'est peut-être parce que je suis trop souvent plongé dans le milieu communautaire et qu'on constate chaque jour des situations qui nous amènent à faire un peu ce constat-là. Mais il est vrai que la qualité de vie, c'est beaucoup plus large que la réussite ou l'apprentissage. Et dans ce sens-là, vous avez mis le doigt, si je peux dire, sur un éventail de problématiques.
Oui, puis on voit que malheureusement, c'est ça, assez tôt dans notre parcours de vie, il y a des inégalités qui s'installent au niveau des chances qu'ont nos jeunes de bien s'épanouir. Moi, c'est vraiment ce qui est venu me toucher. On n'a pas trop mis de l'avant cet aspect-là, mais des écarts entre le public et le privé, des écarts entre des familles plus défavorisées, moins défavorisées, entre ce que je disais, les enfants qui, à la base, ont des difficultés scolaires ou moins. On voit vraiment que tout ça, ces écarts-là, ça, sont présents dès le début du primaire. Je dirais même des écarts entre les garçons et les filles.
Oui, aussi.
Et qui s'installent, qui creuse au fil des années. Donc, est-ce qu'après ça, on est aussi surpris des inégalités qui sont bien présentes dans nos populations une fois rendues à l'âge adulte? Moi, je pense que ça vient quand même porter un éclairage complémentaire à ce qu'on savait déjà.
Oui, puis ça nous amène dans le développement de la vie du jeune garçon, de la jeune fille. On peut imaginer rendu à l'adolescence, si déjà il y a une problématique d'un mal-être. On peut à ce moment-là, ça peut déraper, là, et ça, il faut intervenir avant.
Oui, puis pour les jeunes filles, on voyait vraiment que ce mal-être-là semble davantage se traduire par des manifestations au niveau, on va dire, de la santé psychologique.
Oui.
Ça semble vraiment plus présent, là, surtout à partir de la puberté au secondaire, alors que chez les garçons, tant au primaire qu'au secondaire, les parents nous rapportent vraiment plus des difficultés d'attention scolaire qui sont présentes quand même à un jeune âge et qui restent présentes, mais qui ne semblent pas se transformer avec la même propension là, en symptômes d'anxiété, de dépression, pas autant que chez les filles. Donc, est-ce que ça se traduit en d'autres choses, des comportements violents, d'intimidation ou perte de motivation scolaire? Sans doute, mais c'est juste une traduction en termes de symptômes là, qui est assez différente selon le genre, à ce qu'on voit dans nos données.
Oui, la manifestation n'est pas la même. Vous parlez, entre autres, dans votre étude, et ça, c'est nous sommes dans le monde moderne, la dépendance aux écrans, sous toutes leurs formes. Parce qu'il y en a des petits, puis il y en a des plus grands, des écrans. Là, il y a des tablettes, il y a des téléphones, puis il y a la télévision, souvent devant laquelle l'enfant est parqué là, pour ne pas faire de bruit. Mais cette dépendance-là, ça crée une forme de coquille autour de chacun.
Oui, le mot dépendance, de plus en plus, on essaie de le réserver au réel trouble de cyberdépendance qui, ceci étant dit, pas si présent. La dépendance réelle qui vient avec un envahissement important dans notre fonctionnement, et tout ça, c'est quand même encore, heureusement, là, pas trop présent. C'est un faible pourcentage des jeunes seulement. Mais je pense que quand on dit dépendance communément, c'est plus pour faire référence au fait que c'est c'est
omniprésent.
Oui, c'est ça, c'est une omniprésence, c'est une hyperconnectivité. Ça fait tellement partie de nos vies. Puis moi, souvent, quand j'essaie d'expliquer aux jeunes et aux moins jeunes, ce qui est préoccupant, c'est que tout ce temps-là passé sur les écrans, ben non seulement on peut être exposé à toutes sortes de contenus, mais ce 4-5 heures-là par jour, là, ça va jusque-là et même plus, ben c'est des heures que dans nos jeunesses d'antan, on passait dehors avec des amis à écrire, à jouer à des jeux, à explorer, à prendre des risques. Donc, c'est énorme, là, 4, oui. 5, 6 heures par jour, tous les jours, que nos jeunes passent là-dessus et donc forcément pas ailleurs. Ça peut être pour le sommeil, pour l'activité physique, mais vraiment là, pour être dans le monde réel, socialiser, développer des compétences qui sont vraiment importante à développer pendant qu'on se développe, pendant que notre cerveau est justement en pleine ébullition et est en train d'établir toutes les connexions là, dont on a besoin pour bien fonctionner à l'âge adulte. Donc, moi, je pense que c'est vraiment à cet endroit-là, c'est pas une dépendance, mais une omniprésence qui, forcément, il y a toujours 24 heures dans une journée, donc qui nous enlève du temps pour se développer dans les autres sphères de notre vie.
Oui, puis il y avait d'ailleurs toute la question d'autoriser ou non les téléphones cellulaires dans les écoles, ainsi de suite. Là, il y a un débat au sujet de savoir si c'est approprié dans un contexte pédagogique, mais une fois entre les mains, le téléphone cellulaire, son usage devient très large.
Oui, puis en passant pour l'usage pédagogique, moi, je trouve ça comme toujours assez intéressant. C'est un peu passé sous le radar, j'ai l'impression, mais l'Institut national de santé publique du Québec a publié, je crois que c'est en février 2024, donc c'est très récent, une revue de littérature qui était vraiment sur les avantages versus les inconvénients de l'environnement numérique, là, d'utiliser des appareils numériques à des fins cognitives, là, des avantages, on va dire, au niveau pédagogique, au niveau de la stimulation cognitive. Puis en gros, ils nous disent que d'avoir un cellulaire ouvert sur le pupitre en classe, c'est pas bon. Somme toute, il n'y a pas tant d'avantages, même des plus d'inconvénients. Même un cellulaire fermé, c'est pas bon. D'avoir des outils numériques pour la lecture et pour l'écriture, ça non plus, ça n'aurait pas vraiment d'avantages et à la limite plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, je vous dis, j'ai pas entendu beaucoup
okay.
De médias reprendre ça, mais là, je trouve que c'est assez puissant, là, parce que de dire si l'argument, c'est qu'on le fait pour des fins d'avantages au niveau pédagogique, ben reposez-vous la question parce que la littérature n'est pas si vraiment pas si claire que ça.
Bon, ben je suis content de vous l'entendre dire parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le milieu scolaire moi-même et c'est sûr qu'à prime abord, on prête à la technologie une puissance que le papier et le crayon ne semblent pas avoir. C'est intéressant ce que vous amenez là. Il y a quand même des pistes de solutions qui demandent une intervention de tout le milieu pour améliorer le bien-être des enfants.
Oui, puis c'est pas. Je pense que quelqu'un qui vous dirait qu'il a une idée merveilleuse qui va répondre à tous les enjeux, posez-vous des petites questions, ayez des doutes. Là, je pense que c'est hyper compliqué. Puis oui, la relation qu'on a avec le numérique est forcément le manque de relation avec le réel fait partie. Là, du paysage. Moi, j'en suis convaincue. Mais comme je dis, est-ce que c'est juste de faire la guerre aux minutes passées devant l'écran versus comment on peut gagner, revaloriser la connexion sociale, la connexion à la nature, être des modèles de rôle aussi qui inspirent le jeune? Parce qu'à quelque part, si nous-mêmes, on est en télétravail, on est beaucoup rivé sur l'écran, on est très occupé, donc on a moins de qualité de vie en famille axée sur le réel, bien, c'est de le faire décrocher. Donc, je pense que c'est vraiment d'avoir une cohérence à l'école, dans les loisirs offerts par la municipalité pour qu'il y ait des occasions de se regrouper, des espaces que les jeunes puissent passer du temps physiquement, comme je dis, à l'extérieur, dans la nature ou dans des salles communautaires, qu'il y ait des activités de fun pour eux, pour elles, qu'elles puissent s'engager tôt aussi dans le processus, peut-être même dès le primaire. Qu'est-ce qui manque dans la ville? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter pour que qu'on vous fasse sortir de chez vous puis reconnecter tout le monde ensemble. Donc, c'est vraiment un travail collectif, municipal, loisirs, école, évidemment les familles. Et c'est voilà. Tous ensemble là, qu'on va être capable de faire quelque chose de bien.
Apporter des alternatives qui sont attrayantes et pas juste sous la forme d'une interdiction. Hein, ça fait toute la différence.
Ben, de ce que je connais de l'adolescence, mettons que plus que c'est interdit,
plus c'est tentant. Donc... voilà. tout à fait. Ben, docteur Généreux, merci d'avoir été avec nous. Puis on va suivre ce large sujet au cours des prochains mois. Merci.
Merci, ça fait plaisir.
Après la pause, on va parler de répit. ou du manque de répit.